décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 13, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Eh bien Manu, qu'as-tu dans notre sommaire ?
On a 7 articles et on commence par...
L'ADN, inégalité, Google et Facebook en profitent pour accroître leurs revenus par Marine Proté.
Donc c'est un gars, Nanjira Sambuli, membre de la World Wide Web Foundation, qui se plaint et qui hurle un petit peu contre les grosses entreprises, les GAFAM, qui dit qu'elles sont en train de casser Internet.
Lemonde.fr, en Afrique, des lignes de bus cartographiées par les usagers, par Claire Legros.
Donc une idée intéressante, les gens ont des téléphones portables qu'ils peuvent allumer pour avoir le GPS, et grâce à ça, on peut cartographier les lignes de bus qui sont un petit peu difficiles à maîtriser dans certains endroits.
Et faire de l'info en temps réel peut-être ?
Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être en temps réel. Ça a l'air d'être en train d'être mis en place dans certains endroits.
IT Espresso, numérique inclusif. Le gouvernement donne une prime au logiciel libre par Clément Boïc.
Donc, on revient sur les notions de référentiel, d'interopérabilité. C'est un petit peu ces notions-là. Il y a du mouvement dans le gouvernement. Donc, ils vont se passer la balle. Mais ils poussent pour utiliser encore plus de logiciels libres, ce qui est plutôt pas mal.
On va quand même aussi féliciter comme le gouvernement pour avoir employé le terme numérique et pas digital.
C'est vrai que ce genre d'occasion se compte sur les doigts.
Journal du Net, ces éditeurs open source qui entrent en résistance face à Amazon par Xavier Bizel.
Alors c'est un sujet difficile parce que les éditeurs open source dont il est question, ils sont en train de changer les licences de leurs logiciels pour que leurs licences ne soient plus compatibles avec ce qu'en font les GAFAM aujourd'hui, qui les utilisent à leurs propres avantages. Et donc ils modifient les licences pour qu'elles soient plus fonctionnelles dans ce système-là, mais ce ne sont plus tout à fait des licences libres, ce qui est embêtant aussi.
Libération, directive sur le droit d'auteur, une victoire pour qui ? Par Amaël Guiton.
Alors là, on est bien embêté. Je pense que ce sera un sujet qui, dans les semaines qui viennent, mais effectivement, on a plein de choses qui nous sont tombées négatives. L'article 13, l'article 11, qui ont été renumérotés depuis, ont été acceptés par le Parlement. Donc il va y avoir pas mal de choses négatives sur le droit d'auteur pour nous, citoyens.
Alors qu'on a vraiment cru qu'on en était débarrassé à un moment. C'est un sale revers.
Le temps, au hackathon du FIFDH, des algorithmes pour faciliter l'aide humanitaire, par Charles Foucault-Dumas.
Donc un hackathon, c'est des gens qui se réunissent et qui bossent, jusqu'à pas d'heure parfois, et là ils sont en train de bosser pour faire de l'humanitaire, donc essayer d'aider dans les zones de séisme par exemple, à utiliser les données qui sont présentes pour faciliter les secours, mais pas que. Il y a pas mal de gens qui essayent d'innover en essayant d'aider leurs prochains, c'est plutôt sympathique.
Uranoscope, 5 startups révolutionnaires pitch Sandrick O, par Laurette Vandoise.
Alors c'est un article qui parle d'un événement qui s'est passé il y a peu de temps, et c'est l'article dont on va parler maintenant.
Donc ça fait suite au remaniement ministériel, Mounir Majoubi n'est plus secrétaire d'État au numérique, il a été remplacé par Cédric O, et donc notre cher nouveau secrétaire d'État s'est déplacé dans pas mal d'endroits où il y a des pitchs de start-up avec voilà. Le Business Angel pour lever des fonds.
Il fallait qu'il se montre. Hein.
Là, il fallait qu'il commence par se montrer. Du coup, il y a eu le journaliste qui a noté 5 start-up révolutionnaires, et donc on va vous les présenter tout de suite.
Oui, donc 5 startups qui font un peu froid dans le dos. Moi, je suis profondément consterné. Celle qui, moi, m'a retourné le plus, c'est Hatcher Flex. Donc, tout un programme, rien dans le nom. Donc, Hatcher comme Human Resources, donc les ressources humaines en anglais, et qui se présente comme une application de gestion de personnel, de management et réseau social, une sorte de mélange entre les deux. Et donc, l'idée, c'est qu'en gros, cette application permet de générer une fiche par salarié, hein, pour mieux le gérer, bien sûr, et qui va récolter des informations sur lui, donc les informations publiques qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Mais également, on peut alimenter des informations tirées de la vie de la boîte, de l'organisation qui déploie ce machin, et qui va utiliser un outil qui va définir un profil psychologique de cette personne-là. On se rappelle que Cambridge Analytica a exactement utilisé ce genre de choses avec 63 likes, qui étaient capables de positionner quelqu'un très précisément avec son profil psychologique. Et donc c'est ce genre d'exploitation pour ensuite, faire du bon management, que ce soit pour récompenser les gens, tout ça, parce qu'évidemment, ils mettent du positif, mais ils évoquent quand même du négatif en disant qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué de virer des gens et que ça peut être pas mal de savoir comment leur mettre la pression pour qu'ils bossent plus, voire, on suppose, évidemment, ils s'en rendent pas, qu'ils se cassent. Ça m'a fait penser à La vie des autres. Je sais pas si vous avez vu ce film-là.
Non.
Moi, je l'avais vu, effectivement, c'est un comédien qui est au temps de l'URSS. L'Allemagne
de l'Est,
en fait. L'Allemagne de l'Est, ouais. Enfin, c'est pareil dans l'époque-là.
Oui.
Et du coup, coup, bah, y a tout ce qui est la surveillance, Stasi, etc. Et donc, tout le monde est sous pression. Et donc, ils essaient de le casser parce que sa compagne est potentiellement une dissidente. Et donc, ils essaient de complètement le manipuler pour lui arriver à leur fin à la fin.
Et dans le film, on a des psychologues, hein, des gens qui font des études universitaires. Il y a une scène comme ça, présente le travaux de leur, le résultat de leurs travaux sur comment on arrive à manipuler les gens ou à les casser en fonction de leur personnalité, en disant que certains, on va leur faire peur en les emmenant au commissariat. Mais d'autres, au contraire, ça va plutôt les renforcer. Donc ceux-là, il faut utiliser d'autres méthodes, etc. Donc on a parfaitement cette idée-là. Hein. Le logiciel va proposer des programmes de traitement du salarié avec des outils pour que tout le management puisse synchroniser là-dessus. Et pire encore, dans ce côté réseau social, mais qui peut dépasser les frontières de l'entreprise pour échanger des bonnes pratiques. On peut supposer qu'on peut échanger des informations sur le salarié lui-même, voire monter des coups pourris du genre une autre boîte partenaire lui propose un contrat super juteux et le type se barre et se retrouve avec une fin de période d'essai à son deuxième jour de boulot, par exemple. Ça ouvre des tas de possibilités vraiment, vraiment super inquiétantes.
Alors, deuxième start-up, c'est PitchPulse. Forcément, le marché des start-up est en train de grossir en France, hein, parce qu'il n'y a quasiment plus que ça maintenant. Tous les jours, on voit des nouvelles start-up se créer. Et du coup, cette start-up-là propose de faire un peu l'inception des start-up avec un outil qui permet de générer tout le business model, tous les discours, les pitchs, les business plans d'une start-up à partir de mots-clés. Donc, ils ont compilé l'intégralité de tout ce qu'ils ont pu récupérer en participant à des salons comme le CES de Las Vegas ou Futur en scène ou tous les gros séminaires et tous les gros événements liés au monde Startup Nation pour générer automatiquement tout ça. Et donc ils sont capables aujourd'hui, enfin ils se vendent, de pouvoir remplacer les commerciaux, les CEO et autres. Vous avez juste une idée, vous rentrez trois mots clés et ça vous génère tout votre bordel.
Personnellement, j'y crois pas du tout, je pense que c'est une grosse intox. Alors peut-être que mettre en forme effectivement des idées avec les études qui ont été derrière, ça peut marcher. Mais je pense que c'est eux qui sont au top du top, puisqu'ils sont en train d'essayer de finalement faire du pognon sur les gens qui font du pognon. Enfin,
Il y a peut-être un effet d'aubaine, des effets d'annonce ou autre. Après, la petite anecdote, la journaliste leur a quand même demandé si leur start-up avait été créée avec leur propre outil. Ils n'ont pas souhaité répondre à la question. Donc, voilà. Mais bon, ça montre quand même que même les métiers qu'on pensait plutôt à l'abri de l'ubérisation ou autre, là, potentiellement, être CEO ou marketing, c'est pas bon pour vous. Il y a des gens qui commencent à chercher à vous remplacer. Donc
Après, on pourra peut-être faire un logiciel pour les business angels eux-mêmes, ceux qui donnent le pognon. Et comme ça, on peut avoir un mouvement qui dure à l'infini tant qu'il y a de l'électricité. Ça va tourner en boucle. Ouais, c'est quand même assez rigolo. Toi, Nolwenn, t'en as une qui t'a bien plu.
Oui, enfin, bien plus, c'est le grand mot. Ce qui m'a bien intrigué, moi, c'est Balance ton pote. Ah. Alors, c'est une start-up qui propose justement, par exemple, à toi de balancer des informations sur ton pote. Par exemple, si tu veux des places gratuites de cinéma ou un abonnement à Gaumont Pâté, par exemple, tu balances des informations sur tes amis, tiens, lui, il aime bien faire du footing au niveau du Jardin du Luxembourg, et puis ça va intéresser des boîtes partenaires de Gaumont Pâté qui vont donc proposer des pubs ciblées à ton pote, et toi, tu te retrouves à aller au cinéma. Gratos.
Donc en fait, on te rémunère pour filer des infos.
C'est ça.
Donc on sait que le marché des infos personnelles, c'est énorme, hein, c'est des milliards et des milliards à l'échelle européenne, enfin à l'échelle mondiale, mais ne serait-ce qu'au niveau européen, déjà, je sais plus combien c'est, mais c'est plusieurs milliards par an. Et puis, il y a plein de situations dans la vie où on va dépenser beaucoup d'argent, quand on achète de l'immobilier, quand on achète une voiture, quand on fait un enfant, alors là, c'est vraiment une somme d'argent colossale dans la durée. Et du coup, avoir des infos, c'est super efficace. Plus elles sont précises, plus on va pouvoir effectivement cribler de pubs cibler les gens.
Et c'est vrai que les amis, c'est quand même le moyen idéal pour récupérer des infos, hein, parce qu'on est toujours en avance sur l'information, on est les premiers au courant de j'ai en tête d'acheter une bagnole ou d'aller voir tel truc ou autre. Et donc, c'est des informations qui, certainement, vont se vendre très très cher auprès des différents publicitaires. Ça vaut bien
quelques places de cinéma. Mais c'est légal, parce que...
J'ai des problèmes de santé. Voilà. Ça peut intéresser les assurances, ça.
Ouais. Et les vendeurs de colifichets et de machin aussi. S'ils savent que t'es superstitieux en plus, voilà. Mais du coup, c'est légal parce que, je veux dire, ça ressemble un peu à de l'espionnage, la vie privée, tout ça.
C'est une question qui a été posée. Et d'après leur juriste, à partir du moment où une personne a donné l'information à quatre amis, l'information est publique.
Oui.
Maintenant, méfiez-vous de compter vos amis. J'ai une discussion à trois, à plus de trois, sinon on peut revendre vos données.
Je suis pas totalement convaincu par l'analyse juridique, je suis pas expert, mais voilà. En tout cas, ça avait retenu l'attention et ça avait bien plu. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ?
Alors celle-là, malheureusement, elle s'est pas fait retenir, elle a même plutôt été assez huée et mal accueillie. C'est la société PhoneOni qui vend une intelligence artificielle qui permettent de tenir la jambe en fait à tous les démarcheurs téléphoniques qui peuvent appeler chez vous. Et à chaque fois, vous en avez marre, vous êtes obligé de raccrocher autre. Sauf qu'en fait, il faut savoir que ces opérateurs-là, généralement, n'ont pas le droit de raccrocher d'eux-mêmes. Ils doivent attendre la fin, que ce soit
le client. Au moins, il faut qu'ils déroulent tout l'argumentaire.
Dérouler l'argumentaire, etc. Et donc, du coup, cette intelligence artificielle essaye de tenir la jambe. Donc avec, est-ce que vous pouvez répéter ? Je vous ai pas compris. Ah bah voilà, oui, ok.
Alors, je crois qu'il dit pas oui, justement pour éviter de se retrouver avec un accord, un rendez-vous, des choses comme ça. Mais il dit jamais oui.
Voilà, mais en tout cas, il y a toute une intelligence derrière. Après, il y a toute une notion de blockchain aussi, parce que du coup, ils collectent des informations sur qui va appeler, quand, et donc ils peuvent remonter à la CNIL pour faire des stats de...
Donc c'est duo gagnant, hein. Voilà. Intelligence artificielle plus blockchain, c'est nécessairement une super startup.
Ça marche toujours, ça. Et en plus, c'était à noter, c'était une des seules startups qui utilisait du logiciel libre, puisqu'ils étaient basés sur Common Voice de Mozilla. Pour la partie génération vocale et autres. Mais malheureusement, bah oui, c'était pas très Startup Nation, puisque ça allait casser tout le business
de la pub
et des plateformes d'appel et autres. Donc bah, ça n'a pas été très très bien accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire.
La dernière que je trouvais assez fabuleuse s'appelle Emo Media. Donc c'est un truc qui s'adresse au domaine du divertissement, qui pose le constat que Disney et plein d'autres grosses boîtes comme ça sont super forts pour générer de l'envie chez les gens et faire de la super com, hein, en faisant des trucs qui sont pas nécessairement de qualité mais où tout le monde a envie d'y aller, mais qu'au final on a très peu d'informations sur la façon dont c'est réellement accueilli et réceptionné par le public. Et donc Emo Media se propose de mettre des capteurs sur les gens, donc des électrodes qui vont mesurer l'activité cérébrale au travers du crâne, hein, c'est pas invasif du tout, des capteurs sur les pores de la peau qui vont mesurer la dilatation, et regarder les pupilles ici qui peuvent se dilater, et ils affirment être en mesure d'évaluer l'état émotionnel des gens, et donc de voir si tel film ou tel jeu, telle musique va générer un plaisir réel chez quelqu'un, une émotion forte, ou au contraire le laisser complètement froid.
Mais du coup, ils vont faire ça sur un public test ou c'est tout le monde qui devra s'équiper de tout ce matériel ?
Alors, le truc, c'est qu'ils disent que dans leur modèle, leur business model, comme on dit, ils voulaient déjà utiliser les casques de réalité virtuelle et les casques de réalité augmentée qui sont le prochain truc à la mode, pour en profiter pour mettre des électrodes et vendre comme système de dire que les gens, ils auront des ristournes s'ils n'ont pas aimé le film. Et en disant que la ristourne, bon, on n'est pas obligé de la faire très très élevée, mais que comme ça, on va générer encore plus d'infos sur l'état des gens. Puis on peut ça, oui, faire également un truc pour que les gens puissent partager sur les réseaux sociaux voilà, une note générale, une appréciation globale des films, en disant « moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai eu une note 380 sur tel film, etc. » Mais que du coup, ça leur permettrait de générer encore plus d'infos et connaissances et une surveillance des gens encore plus poussée, qui sera exploitable pour toute l'industrie du divertissement, qui pourra calibrer tous ses produits au micro-poil en fonction des goûts du public.
Ça devient encore plus creepy, hein, surveillage 24,
voilà, tout mesurer, même, tout même l'intime devient, voilà. Devient surveillable.
Ça fait vraiment flipper pour les années à venir.
Voilà, on va méditer là-dessus. Et puis, voilà, si vous avez des idées de start-up hein, pour faire fortune, réfléchissez-y. On se retrouve la semaine prochaine.
Et rappelons-nous que nous enregistrons le 1er avril 2019.